Dans le calendrier liturgique juif, vous connaissez certainement deux grandes fêtes, la fête du Kippour, le grand pardon, et la fête de Pessah, dite aussi fête de Pâques. Mais il y a dans le calendrier liturgique juif une autre fête importante, moins connue de la plupart d'entre vous, la fête de Shavuot. La fête de Shavuot consiste à fêter le don de la Torah fait à Moïse. Dieu a donné la loi à Moïse, et c'est là que le peuple hébreu s'est formé, s'est structuré, et c'est intéressant de dire que si le peuple hébreu est né en Égypte et ensuite a connu la libération par la main du Seigneur, mais c'est dans le désert, dans la liberté, qu'il a reçu une loi. Comme pour dire que seul à un peuple libre, on peut donner une loi. Et ce don de la loi permet de réguler les rapports les uns avec les autres, comme le fait aussi la loi sous laquelle nous vivons ici en France. Ça régule les rapports les uns avec les autres. Ça permet la relation. Qu'est-ce que dénonce Jésus? Et pas seulement Jésus. Nous avons écouté dans la première lecture quelque chose aussi qui nous rappelle ça. Vous avez fait de la loi une occasion de chute. Alors qu'elle était donnée par Dieu sur la montagne à Moïse pour permettre la relation, pour permettre de vivre en communauté dans un peuple qui, qu'un cas, a traversé pendant 40 ans le désert, eh bien, vous en avez fait un lieu de chute. Vous avez fait du don un obstacle. Et c'est peut-être pour ça que dans la tradition juive, régulièrement, on fête chaque année cette fête de Shavuot comme pour nous rappeler que la loi est un don. Et qu'au fond, le fait d'être en relation les uns avec les autres, c'est une grâce. C'est une grâce qui est précédée d'un don, le don de la vie, le don de l'amour. Et parce que ce don de la vie et ce don de l'amour sont là, eh bien nous voulons aussi tisser des relations les uns avec les autres. Et si même nous, bien sûr, nous n'avons pas reçu, comme Moïse, le don de la Torah, le don de la loi, mais nous avons des dons, nous avons des charismes. Don, charisme, c'est l'origine latine ou grecque, qui nous ont été donnés. Et posons-nous la question, comment nous vivons les dons qui nous ont été donnés, des dons naturels. Il y a des gens qui ont des dons, par exemple, de relationnels, facilement abordables, de la simplicité. Certains ont le don de mettre les gens en rapport les uns avec les autres, le don de la patience. Certains ont une habileté manuelle, des dons humains, mais aussi des dons spirituels. Certains ont une facilité pour la prière, la contemplation. Quels que soient les dons que nous avons reçus, comment nous les mettons au service de la relation? Parce qu'il me semble, en tout cas c'est une des manières d'interpréter ce que dit Jésus de façon très ferme, vous avez fait du don de la loi un obstacle entre les gens. Vous les avez érigés comme un lieu de division. Vous en êtes servi pour vous-même. Et là, on a déjà une clé de dire les dons personnels que nous avons reçus, déjà de les nommer, quels sont les charismes? Je préfère don qu'à qualité, vous voyez. C'est pas pareil. On dit les défauts, les qualités. Vous êtes dans un entretien d'embauche, vous dites c'est quoi vos défauts, vos qualités. Parler de don, ça veut parler de quelqu'un qui nous précède. parler d'une source, parler d'un ailleurs, parler de la vie éternelle, au fond, parler de Dieu. Qualité, oui, mais ça reste très horizontal. Donc, de parler de dons, je trouve ça intéressant de dire, tiens, au fond, on se voit comme le fruit de quelqu'un qui nous a précédés, nos parents. Nul d'entre nous s'est donné la vie. Nos parents qui nous ont donné la vie, qui nous ont donné l'amour, mais aussi Dieu lui-même qui a nos parents, et ainsi de suite jusqu'au début de l'humanité, a donné la vie. Donc dire qu'il y a un don, c'est dire qu'on n'est pas seul. Oui, on n'est pas seul. Le croyant n'est jamais seul. Le croyant n'est jamais seul. Il n'est pas forcément meilleure personne ou moins bonne qu'un non-croyant. Non, c'est pas ça. C'est il ne se pense pas seul. C'est ça la foi. Je pense qu'il y a en moi une source. Mais cette source-là, c'est pas moi qui l'ai créée. C'est une grâce. C'est un don. Et donc Jésus, il est très fort et à plusieurs reprises dans l'évangile pour s'adresser à ceux qui ont reçu et à ceux qui ont eu l'intelligence, parce qu'il s'agit bien de ça, hein, si j'entends bien, les scribes et les pharisiens, c'est les pros de la Torah. Et quelque part, plus ils ont reçu, plus ils s'en demanderaient compte de ce qu'ils ont reçu, de ce qu'ils ont contemplé. Et se dit pour chacun d'entre nous, plus nous avons des grâces qui nous sont données au plan tant humain que spirituel, plus il nous sera demandé à celui à qui il a été donné, il sera aussi beaucoup demandé. Donc de se poser la question de dire, tiens, comment je vis les charismes que j'ai reçus, les nommer d'abord, et quand j'accompagne, je m'adresse à des couples mariés, je leur dis, mais c'est quoi le charisme de votre couple ? J'aime bien poser dans les préparations au mariage, j'aime bien poser la question, tiens, c'est quoi le charisme de votre couple ? Hein, on parle du charisme d'une communauté religieuse qui est inscrite à l'intérieur, bon, c'est plus formel parce que c'est une vie, forme de vie assez particulière, mais il y a aussi un charisme du couple. Il y a un don qui est fait au couple parce qu'il rend visible de façon unique l'alliance. Quelle est cette façon unique dont vous rendez visible l'alliance? C'est ça le charisme du couple. Mais personnellement, de se dire, de nommer, et peut-être vous pouvez vous aider l'un et l'autre, voilà, tu as un charisme pour ceci, pour cela. Mais comment le vivre après? Comment faire pour qu'il ne soit pas obstacle? C'est ça le danger. Parce que les pharisiens et les scribes se sont comme gonflés d'orgueil de leur savoir et c'est des sachants, c'était une autorité dans le peuple d'Israël. Ils s'étaient comme emparés de la Torah et n'ont plus mis au service. Oui, ils la lisaient, ils la scrutaient, mais est-ce qu'ils laissaient la Torah les scruter eux? Parce que la lecture, la parole de Dieu, on la lit, mais elle nous lit. Et donc, en fait, Jésus nous dit, voyez le charisme que vous avez reçu pour le mettre au service, mais voyez-le comment vous pouvez le mettre au service d'une relation, d'une communion. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a une humilité. Des personnes parfois s'enorgueillissent des talents, il y a des gens d'une très grande intelligence, il y a des artistes d'un talent mais extraordinaire. On se dit mais c'est impressionnant, mais comme ils se repaissent d'eux-mêmes, il n'y a plus de source extérieure à partir de laquelle ils ont reçu toutes ces grâces, eh bien ils deviennent obstacles pour les autres. Et c'est un combat spirituel, parce que le talent nous met dans un combat spirituel, nous rappeler que nous ne sommes pas origine, nous rappeler que nous sommes créatures, nous rappeler que nous aurons des comptes à rendre, des charismes qui nous auront été donnés pour la communion. Parce qu'il s'agit bien de ça, la communion avec Dieu, la communion entre nous, c'est de ça aussi dont nous voulons vivre et ce à quoi le Seigneur nous appelle. Nous venons d'une communion, Père, Fils et Saint-Esprit, nous croyons en un Dieu unique, mais nous ne croyons pas en un Dieu solitaire. Nous croyons en un Dieu d'amour qui en lui-même est communion d'amour. Eh bien, c'est aussi l'occasion pour nous de dire les grâces que nous avons reçues, en quoi elles sont facilitatrices de relations, en quoi elles créent des liens, en quoi elles mettent du liant, en quoi je les mets au service. Et c'est ce que Jésus nous dit à la fin, c'est les premiers seront les derniers, hein, les derniers les premiers, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand des charismes, eh bien, c'est au service. C'est là où il est beau. Mais quand au contraire, comme les scribes et les pharisiens, on l'érige comme un lieu de pouvoir, et la tentation est grande. Dans le peuple d'Israël, ce sont les sachants, les scribes et les pharisiens. Eh bien, du coup, c'est au contraire un lieu pour trébucher, pour éloigner les gens de la Torah dans le peuple hébreu. Et ce que nous disons du peuple hébreu, nous pouvons aussi le dire de nous-mêmes, chaque religion ayant ses scribes et ses pharisiens qui prennent le don qui a été fait de leur tradition religieuse pour peut-être aussi être un obstacle face à Dieu. Vous voyez, je trouve que c'est intéressant de... C'est une des manières, en tout cas, d'analyser cet évangile, de méditer dessus, de voir la vie comme un don qui nous précède, mais aussi que nous transmettons, et avec ce que nous avons de talent, de nature et de grâce, nous nous mettons au service. Et notre communauté, qui porte le beau nom de serviteur de Jésus et de Marie, c'est un nom absolument extraordinaire, eh bien, ça nous engage encore plus comme frères. Parce que nous avons une règle de vie qui nous dit, tiens, toi, n'oublie pas que tu es au service. Qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Nous dit Jésus, moi, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Se mettre au service, rentrer dans une logique de don, rentrer dans une logique d'engagement. Et Jésus nous en donne le signe à travers chaque messe, en se donnant complètement sous le pain et le vin consacrés. C'est tout lui qui est là, présent. Cette radicalité dans l'amour nous rappelle aussi que nous avons à nous mettre au service. Nous rappelle aussi que nous aurons des comptes à rendre. Nous rappelle aussi qu'au fond, notre lieu de sainteté, c'est le charisme aussi que nous avons reçu. À quoi on peut voir que quelque chose est un charisme? Une définition possible, c'est faire facilement ce que d'autres font difficilement. Et si vous repérez en vous ce que vous faites facilement, dites-vous c'est aussi un lieu de sainteté, c'est un lieu de communion, c'est un lieu pour le bien, c'est un lieu où les relations naissent autour de vous parce que vous vous mettez au service. Alors, on peut demander cette grâce au Seigneur, particulièrement aujourd'hui. On est vers la fin de l'année liturgique. Hein, on a la Toussaint derrière nous, déjà qui nous rappelle la vie éternelle. Mais de nous rappeler que nous sommes témoins, parce que nous acceptons une certaine dépossession de nous-mêmes. Nous sommes témoins parce que nous acceptons les uns et les autres, et de reconnaître le charisme de l'autre sans jalousie, parce que le charisme de l'autre, c'est aussi un charisme pour moi. C'est un don pour moi. C'est pas un don que pour l'autre qui l'a reçu. C'est un don pour la communauté. C'est un don pour le corps que nous formons. Et de ce point de vue-là, notre société très individualiste fait perdre de vue cette dimension du corps, du charisme pour le corps. Le don de la Torah à Moïse, c'est pour que le peuple hébreu puisse avancer, se structurer, être dans la confiance. Alors reprenons bien conscience de tout ça, de dire tout ce que nous avons reçu, ce que l'autre a reçu, je le vois dans la bienveillance et je le vois comme une responsabilité. Hein, nous, comme chrétiens, nous n'avons pas l'exclusivité de la communion, nous en avons la responsabilité. Nous sommes responsables parce que, évidemment, Jésus lui-même, par l'amour qu'il a témoigné, nous dit « Toi, va et fais de même. Amen. »